Et à 19h, c'est le journal d'Hélène Philly. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Gérald Darmanin maintient ses chiffres, mais admet des gestes disproportionnés de la police. L'IGPN saisie. Les ministres de l'Intérieur et des Sports entendus par les sénateurs ce soir est toujours questionné en ce moment même sur le fiasco de samedi dernier au Stade de France. 60 000 euros, le montant plafond pour l'indemnisation des victimes d'abus sexuels dans l'église et qui fait débat. L'actualité, c'est encore l'Ukraine et l'étau qui se resserre sur Severodonetsk, l'usine chimique de la ville, touchée par une frappe russe. Les bénéfices des énergies renouvelables en chiffres ces 20 dernières années. Et puis Roland-Garros, on suit les deux derniers quarts de finale hommes ce soir. Et au téléphone sonne, Corinne.
Et c'est quoi être riche en France? L'Observatoire des inégalités sort aujourd'hui son deuxième rapport sur le sujet. On s'intéresse ce soir aux 7% de Français les plus aisés. Ils sont notamment cadres supérieurs, propriétaires et vivent en couple. Leurs revenus ont tendance à progresser plus vite que ceux des autres. Et vous, vous pensez être riche ou pas tant que ça? La richesse, est-ce que c'est seulement de l'argent? J'attends vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000.
France Inter.
Avons-nous évité le pire? Oui. Aurions-nous pu anticiper davantage? Sans doute. Gérald Darmanin reconnaît donc des erreurs face aux sénateurs ce soir en refaisant le film de la soirée de samedi dernier au Stade de France, presque minute par minute. Bonsoir Anne Souhaitemont.
Bonsoir Hélène.
Un petit mea culpa, mais le ministre maintient sa version et assume ces chiffres qui interrogent pourtant depuis plusieurs jours.
Oui, un tout petit mea culpa. Gérald Darmanin a effectivement commencé par évoquer une fête du sport gâché, une blessure pour la fierté nationale française. Aurions-nous pu anticiper davantage? Sans doute, a expliqué le ministre de l'Intérieur, qui a prononcé le mot excuse, mais uniquement sur l'utilisation des gaz lacrymogènes.
Donc le gaz lacrymogène a permis de sauver un certain nombre de personnes de l'écrasement. Il a aussi causé de grands dégâts, notamment sur des enfants. J'ai vu comme vous les images, je voudrais m'en excuser très sincèrement.
Des excuses donc, mais surtout beaucoup d'auto-justification. Pendant de longues minutes, Gérald Darmanin, qui a été très attaqué depuis samedi soir, a répondu méthodiquement. Oui, il y avait assez de policiers déployés. Oui, les tribunes anglaises sont celles devant lesquelles les affrontements ont eu lieu. Et oui, il y avait beaucoup plus de monde que prévu, 30 000 personnes supplémentaires, car beaucoup de faux billets.
Un même billet a été parfois dupliqué. Pour l'un, 760 fois, avec le même numéro. Un autre, 744 fois.
Voilà pour les explications du ministre de l'Intérieur. Et là, depuis une grosse demi-heure, Gérald Darmanin est interrogé par les sénateurs, Anne.
Oui, l'heure est aux questions. Sénateurs LR, socialistes et centristes se succèdent au micro depuis quelques minutes. Allez-vous réformer la doctrine française du maintien de l'ordre sur ces grands événements sportifs, demande-t-il. Présenter des excuses aux Anglais et aux Espagnols. Enfin sortir du déni après ce fiasco. À 2 ans des Jeux Olympiques de Paris, mais à quelques jours surtout du premier tour des législatives, les oppositions montent au créneau.
Un peu plus tôt dans la journée, la porte-parole du gouvernement avait assuré que le ministre de l'Intérieur conservait toute la confiance du président. Ce qu'il faut retenir de cette audition de Gérald Darmanin et de la ministre des Sports face aux sénateurs, c'est à lire aussi sur franceinter.fr.
Quel critère, quel barème pour réparer l'irréparable, Hélène.
Difficile travail que celui de l'instance de reconnaissance et de réparation qui a présenté aujourd'hui, 6 mois après la remise du rapport Sauvé, une grille d'indemnisation pour les victimes d'abus sexuels dans l'église. Ce sera 60 000 euros maximum en fonction de 3 critères, la gravité des faits, des manquements de l'Église et des conséquences sur la santé des victimes. Bonsoir Faustine Calmel.
Bonsoir.
Et c'est ce barème qui heurte certaines associations.
Une classification de 1 à 10 pour les 3 critères que vous évoquiez, Hélène. Et c'est cette échelle qui met en colère François Deveau, le fondateur de l'association La Parole Libérée, dissoute l'an dernier.
Par exemple, un viol, une fois, c'est 5 points. Mais un viol, c'est un viol, c'est une vie qui est détruite, fauchée. C'est un tsunami, ça ne vaut pas 5 points, ça c'est de la connerie.
François Deveau s'interroge aussi sur comment mesurer les conséquences de l'abus sexuel sur la vie de la victime. Faut-il raconter sa vie conjugale, parler de l'impact sur ses propres enfants? Pour Olivier Savignac, président de l'association Parler et Revivre, le problème est structurel. La reconnaissance au-delà de la réparation financière, c'est écouter les victimes et l'INIR n'en a pas les moyens.
Des entretiens téléphoniques de quelques dizaines de minutes ou alors un entretien d'une heure et puis ça se solde comme ça. Il n'y a pas du tout un process d'accompagnement ce qu'on pourrait attendre pour ensuite conduire vers la reconnaissance et la réparation. Donc pour moi, ça c'est un point important que l'INIR finalement n'arrive pas à tenir parce qu'elle n'arrive pas à gérer sa mise en place, l'échéancier n'a pas été tenu et qu'aujourd'hui il faut faire vite.
Et l'INIR admet un délai de 6 mois entre la demande de prise en charge des victimes et leur indemnisation. L'instance promet de recruter un plus grand nombre de référents dans les mois à venir.
Faustine Calmel, une peine très lourde, plus sévère même que les réquisitions. L'infirmière qui avait agressé un pompier en marge du défilé du 1er mai à Paris a été condamnée à 10 mois de prison ferme en son absence. Aujourd'hui, à l'audience, en début de mois, ses conseils avaient mis en avant sa fragilité psychologique pour demander un renvoi du procès, rejeté par le président du tribunal. Et puis les violences de l'ultra-droite devant la justice cet après-midi. 5 hommes comparaissent à Paris pour des coups, humiliations sur un ancien dirigeant du GUD, le groupe étudiant d'extrême droite. Et si cette affaire intéresse aussi, c'est parce que 2 des prévenus, Loïc Le Priol et Romain Bouvier, sont les principaux suspects de l'enquête sur l'assassinat de Federico Martín Aramburu, l'ancien international de rugby abattu en plein Paris en mars dernier. Ariane Grissel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous suivez cette audience où ces 2 prévenus comparaissent donc détenus.
Oui, ce procès a été renvoyé à 3 reprises. Les fois précédentes, la salle n'était pas aussi pleine, note l'avocat de Loïc Le Priol qui évoque l'autre affaire qui plane. Et effectivement, même si cet après-midi, il n'est pas question du meurtre de Federico Aramburu, difficile de ne pas y penser, déjà par les 6 policiers exceptionnellement cagoulés dans le box. Ensuite, quand Loïc Le Priol dit son rejet de la violence, que selon lui, rien ne peut justifier. Pull gris clair, légère moustache, la voix posée, le jeune homme de 27 ans fait part de ses regrets pour le tabassage de 2015, raconte avoir voulu s'expliquer avec la victime sur de supposées violences contre des femmes. Quand il y avait un affront, il y avait une sorte de combat codifié, ça a dérapé. Aucun propos politique, mais un esprit de groupe qui transparaît lorsque les prévenus refusent de citer des noms. Pour l'instant, l'affaire Aramburu a été abordée une fois quand l'avocat de Romain Bouvier, autre suspect, l'interroge sur sa situation. Le véritable point positif de ma détention, répond le trentenaire, laissant entrevoir sa future ligne de défense, c'est que je suis suivi par un psychiatre et un psychologue. Je pense que si j'avais fait cette démarche beaucoup plus tôt, je n'en serais pas là aujourd'hui.
Ariane Grissel, en direct du tribunal correctionnel de Paris.
19h07 sur France Inter, vous écoutez le journal d'Hélène Philly. C'est l'un des plus gros postes de dépenses pour les Français, le logement.
Encore plus gros avec l'inflation, les taux d'intérêt remontent et les loyers aussi. Certaines associations réclament un gel, d'autres un coup de pouce des APL du gouvernement qui, jusqu'ici, n'a rien prévu de tel dans son projet de loi pouvoir d'achat. Le ministère de l'économie réunissait pourtant aujourd'hui les acteurs du secteur pour essayer de trouver des solutions. Et sur la question des loyers, bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
La Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, n'est pas prête à toutes les concessions.
Non, et au cœur de la problématique, l'indice de référence des loyers, le fameux IRL qui sert de base pour réviser les loyers des logements vides ou meublés. Il fixe les plafonds de hausse que peuvent exiger les propriétaires chaque année en fonction des prix à la consommation. Jean-Marc Torillon de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, est arrivé à Bercy tout à l'heure avec la crainte que cet indice soit tout bonnement gelé, que les propriétaires n'aient aucune marge de manœuvre. Il est ressorti du ministère, semble-t-il, un peu rassuré.
Ce qui est apparu tout de suite, c'est que la volonté du gouvernement n'est pas de bloquer l'augmentation des loyers, elle n'est pas de bloquer les loyers, mais bel et bien de trouver une solution médiane, temporaire, d'un an, qui permette à l'issue de refixer le loyer normalement et qui nous permette, pendant cette période-là, en tout cas, c'est ce que nous demandons, de pouvoir fixer le loyer comme on peut le faire aujourd'hui.
Et 2 solutions proposées pour ça par les professionnels du secteur, où on calcule normalement l'indice de référence au 30 juin, comme d'habitude, et on s'y tient jusqu'à la fin de l'année, où, accrochez-vous, hein, c'est un petit peu plus complexe, on prend la moyenne des 4 dernières variations d'indice que l'on applique pendant un an à l'indice que l'on calcule chaque trimestre. Mmh. C'est bon Hélène, vous êtes toujours là, on n'a perdu personne. Bref, l'équation n'est pas simple, mais cette problématique de l'inflation ne l'est pas non plus, parlez-en au service de Bercy.
Et reportage Maxime Debs, et face à l'inflation qui accélère en France, on l'a compris, le MEDEF en est convaincu, les patrons qu'ils peuvent augmenteront les salaires parce qu'ils n'ont pas le choix pour pouvoir embaucher, juge son président Geoffroy Roux-de-Bézieux. L'économie durement touchée par la guerre en Ukraine après la pandémie, ça se ressent aussi dans le secteur automobile. 12 mois que les ventes de voitures neuves baissent, encore 10% de chute au mois de mai selon les derniers chiffres chiffres de la plateforme automobile qui rassemble les constructeurs. Cette année pourrait être pire que 2020, estime Fabien Neuvy de l'Observatoire CTLM de l'automobile.
D'abord, il y a eu le problème des semi-conducteurs, des composants électroniques. À cela est venu s'ajouter la guerre en Ukraine. Et là, pour le coup, ça a certainement dissuadé un certain nombre de ménages de se lancer dans l'achat d'une voiture neuve. Mais il y a également la transition vers la voiture électrique, qui est une rupture technologique très importante pour l'industrie automobile, qui suscite de l'inquiétude, notamment chez les équipementiers, chez ceux qui fournissent des pièces détachées pour les moteurs thermiques, parce qu'ils se posent des questions par rapport à leur avenir. Aujourd'hui, les particuliers achètent moins de voitures neuves parce que d'abord, elles coûtent beaucoup plus cher et ça va s'accentuer avec l'électrification des voitures. Donc, ce sont des voitures qui deviennent souvent hors de portée sur le plan financier de beaucoup de ménages. Et puis aussi, il y a des interrogations par rapport à l'avenir de la voiture électrique et donc, il y a un peu d'attentisme. Donc, tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, on est en train d'assister à une accélération de cette tendance baissière des ventes aux particuliers.
Flavien Neuvy, l'Observatoire CTLM de l'automobile avec Laurent Kramer. On apprend aussi ce soir que Stellantis va de nouveau arrêter son usine clé de Melfi dans le sud de l'Italie, faute de puces électroniques. Et la production de blé, fortement perturbée par la guerre en Ukraine, elle devrait baisser de près de 40% cette saison, évalue la société. L'association céréalière d'Ukraine, les exportations chuteront de moitié, tandis que sur le terrain, l'étau se resserre chaque jour un peu plus dans le Donbass, sur la ville de Severodonetsk. L'artillerie russe continue à pilonner cette ville stratégique, menacée du même sort que Mariupol au Marouaman.
Les forces russes consolident ce soir leur position dans le centre-ville de Severodonetsk après des affrontements féroces, rue par rue, quartier par quartier. Une ville détruite à 90% selon le gouverneur de la région de Lugansk. Les combats se poursuivent désormais dans le nord et le sud de la ville sous une pluie de missiles et de roquettes qui oblige les soldats ukrainiens à reculer chaque jour davantage en direction de Lysychansk, plus à l'ouest, afin d'échapper à l'encerclement. Car c'est la menace qui pèse sur les forces ukrainiennes. Se retrouver piégé dans cette poche qui se dessine avec le risque de ne plus pouvoir en sortir. En revanche, pour les derniers civils, il n'y aurait plus aucune possibilité de quitter la ville. Les combats empêchent toute évacuation. Entre 12 et 13 000 habitants contre 100 000 avant la guerre vivent donc terrés dans les abris souterrains. Des civils que les autorités incitent à préparer des masques pour le visage trempés dans une solution de soude. Une recommandation qui intervient après un bombardement russe hier sur une usine chimique de la ville. Un réservoir d'acide nitrique a été touché et les conséquences sur la santé des derniers habitants pourraient être extrêmement dangereuses.
Au Marouaman et à l'étranger encore, Taïwan brave Pékin en lançant des discussions commerciales avec les États-Unis, alors que la Chine considère ce territoire comme le sien et a promis de le récupérer par la force si nécessaire. Et puis, le défenseur international français Kurt Zuma a été condamné à 180 heures de travaux d'intérêt général par la justice britannique pour avoir maltraité son chat. On le voyait donner un coup de pied et une claque à son animal dans une vidéo de son petit frère partagée début février, devenue virale et qui avait déjà poussé son club à le sanctionner.
On parle souvent de ce que coûte la transition énergétique en termes d'emploi notamment, mais qu'elle nous rapporte vraiment?
Quels sont les bénéfices du développement de l'éolien, du solaire, des agrocarburants pour le climat, mais aussi pour l'économie? Eh bien, l'ADEME publie un rapport très détaillé aujourd'hui sur la période 2000-2019, près de 20 ans. Bonsoir Célia Kiré.
Bonsoir Hélène.
Un rapport qui souligne en chiffres les avantages de la transition écologique.
Oui, cette étude veut contrebalancer l'image parfois négative des énergies renouvelables aux yeux de certains. Entre 2000 et 2019, l'éolien, le bois ou les réseaux de chaleur ont permis d'économiser 40 milliards d'euros sur la facture énergétique de la France. Les énergies renouvelables ont en effet permis d'éviter des importations de pétrole, de gaz fossile, importations qui auraient coûté 22 milliards d'euros. La France s'est passée de 900 millions de barils de pétrole, selon les calculs de l'ADEME, et elle a pu dans le même temps exporter davantage d'électricité, ce qui lui a permis de gagner entre guillemets 18 milliards d'euros. Voilà le bénéfice économique. Et sur le plan climatique, ces énergies ont permis d'éviter la combustion d'énergies fossiles. C'est comme si on enlevait d'un coup d'effaceur une année d'émissions de CO2 en France sur une période de 20 ans. Il faut préciser qu'aujourd'hui, on est presque à 20% de renouvelables dans le mix énergétique et on était à 15% en 2015. Les ENR progressent, mais la France est en retard par rapport à ses objectifs. Ces économies de CO2 pourraient être bien supérieures. Enfin, dernier argument de taille dans ce plaidoyer de l'ADEME, les éoliennes n'ont pas d'impact sur les prix des maisons. Ils baissent de 1,5% seulement pour les maisons situées à moins de 5 km des parcs et il n'y a aucun effet au-delà de cette zone toute proche des éoliennes.
Explication signée Célia Quiré, un rapport de l'ADEME, alors que le mégaparc photovoltaïque de Gironde, Orizeo, va poursuivre son développement. Début des travaux prévus en 2024, confirment les porteurs du projet à l'issue de 4 mois de débat public et malgré la farouche opposition des écologistes qui contestent l'emplacement choisi au cœur de la forêt. Sur les cours de Roland-Garros, on connaît désormais le dernier carré féminin, premier duel connu hier, de l'américaine Coco Gauff face à l'italienne Marina Trevisan. Et le second opposera la russe Daria Kazatkina à la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. Reste donc les hommes. 2 quarts de finale que l'on va suivre aujourd'hui. Le premier, toujours en cours, oppose Andrei Rublev et Marin Cilic. Avantage aux Croates, Jean-Pierre Blimaud.
Oui, à 33 ans, Marin Cilic, qui a déjà gagné une fois un tournoi du Grand Chelem, l'US Open, eh bien, essaye de parvenir pour la première fois de sa carrière en demi-finale à Roland-Garros face à Andrei Rublev. Et pour le moment, c'est Marin Cilic qui mène 2-7-1 alors qu'il a perdu le premier 7-5, mais il a gagné les deux suivants, 6-3, 6-4. Les deux joueurs sont actuellement dans le quatrième set. Rublev a pris un léger avantage. Cette partie pourrait durer. Alors évidemment, Andrei Rublev, c'est aussi l'une des valeurs sûres de ce tournoi de Roland-Garros. C'est la tête de série numéro 7, 7e joueur mondial. Marin Cilic, lui, qui est donc plutôt sur sa fin de carrière, essaye de prendre le maximum de ce qu'il peut prendre, surtout sur terre battue où il n'est pas forcément à l'aise. Et puis tout à l'heure, après ce match, dans la fameuse session de nuit, Hélène, il y aura un match entre Viking, Casper Ruud, le Norvégien, contre Holger Rune, le Danois. Et là, il y aura un quart de finale qu'on annonce explosif entre deux joueurs de l'avenir du tennis, deux joueurs qui n'ont jamais réussi évidemment à parvenir jusqu'ici. Ce sera aussi pour l'un ou pour l'autre une première demi-finale à Roland-Garros. Donc pour l'instant, je vous rappelle tout simplement que Marin Cilic a pris une petite option, mais toute petite, face à Andrei Rublev dans la première des deux parties qui nous sont données à voir ce soir sur le Châtrier pour les quarts de finale masculins.
Jean-Pierre Blimaud en direct de Roland-Garros. 24 heures à sauter dans le vide, 765 fois. Il fallait avoir le cœur bien accroché, je vous confirme, pour battre le record du monde du saut à l'élastique. Et c'est l'exploit d'un Français, François-Marie Dibon, aujourd'hui dans les gorges écossaises, pour vous dire que tout est possible. Il y a encore quelques années, il avait le vertige. Tout autre loisir maintenant, et bien plus répandu sans doute, les jeux vidéo. Avec cette question, comment garder le contrôle sur l'utilisation de ces jeux par les enfants? Plus d'un joueur sur 10 les protéger de certaines scènes de violence, parfois. Il y a des outils aujourd'hui, un système de classification par âge, un peu comme à la télévision, mais beaucoup de parents l'ignorent. Alors le syndicat du secteur essaye de faire connaître ces bonnes pratiques. Démonstration avec William Delesseux.
Face à un grand écran plat, manette en main, Timothée Darcy du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs se met dans la peau d'un enfant de 11 ans.
Donc ce compte enfant, on a attribué un âge et un certain nombre de restrictions. On a exploré différents paramètres, donc par exemple de limitation du temps de jeu, que ce soit donc définir des plages horaires, par exemple jouer entre 14h et 17h, mais aussi dans cette plage horaire ne pouvoir jouer qu'une heure et demie.
Et bien sûr, l'enfant ne pourra pas lancer les jeux qui sont notés au-dessus de son âge. Il faut s'adapter aussi aux jeux en réseau, en ligne, devenu la norme, Nicolas Vignol, délégué général du syndicat.
Les consoles maintenant sont des navigateurs internet. Vous êtes connecté, vous jouez online. En fonction de l'âge, vous allez pouvoir autoriser ou non les jeux en ligne, autoriser un nombre d'heures passées en ligne, etc. Et donc suivre ça également.
Le paramétrage de ces options reste fastidieux, 15 minutes en moyenne. Olivier Gérard de Pédagogeux, un collectif qui rassemble les parents, les éditeurs et l'État.
Il reste aussi un certain nombre de parents très éloignés des outils numériques, de l'univers des jeux, sur lequel il va falloir imaginer des actions, notamment sur le terrain, pour les accompagner à utiliser ces outils.
Et pour les parents les plus doués, des applications sur smartphone permettent de surveiller à distance le temps passé devant chaque jeu et d'éteindre la console si nécessaire.
Un reportage signé William Delesseux, l'industrie du jeu vidéo qui est aussi visée par l'UFC. Que choisir aujourd'hui? L'association de consommateurs qui lui reproche notamment les achats in-game, à l'intérieur du jeu, payés pour ouvrir un coffre à trésor, pour aller plus loin dans le jeu. Le marché pesait quand même en 2020 15 milliards de dollars. L'UFC met en demeure l'éditeur de FIFA et en interpelle une dizaine d'autres pour cesser ces pratiques.
Merci Hélène Philippe pour le journal. On se retrouve demain. Restez avec nous pour le Téléphone Sonne. On va parler des riches avec vos questions, vos témoignages et nos invités. Mais un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec Euromaster. toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Et c'est le retour de Jean-Pierre Hameau avec de fortes chaleurs demain, Jean-Pierre, dans le sud et le sud-ouest.
Et oui, Corinne, le mercure va une nouvelle fois jouer avec la barre des 30 degrés, en particulier dans le sud-ouest. À prévoyez 30 à Bordeaux et Agen, 31 dans les plaines toulousaines et jusqu'à 32 à Montauban. Autour de la Méditerranée, on attend 28 à Nîmes, 29 à Marseille, 30 à Bastia ainsi qu'à Ajaccio. Comptez 31 degrés à Montélimar. Et pour la moitié nord, les maximales en hausse évolueront entre 21 et 29 degrés avec 21 à Lille, 23 à Brest. Comptez 25 à Paris, 26 à Nancy, 28 à Tours et 29 à Lyon. Et puis côté ciel, à prévoyez quelques averses en matinée sous un ciel chaotique entre le sud-ouest et le massif alpin. Du soleil partout ailleurs. Avec la chaleur, le temps va tourner à l'orage de l'Aquitaine à la région Poitou-Charentes de l'après-midi, du Massif central au nord des Alpes en passant par le Lyonnais. La Bourgogne-Franche-Comté ne sera pas épargnée. Et attention, ces orages seront parfois violents avec des averses soutenues, du vent et de la grêle. Et puis votre après-midi sera plus calme avec du soleil en remontant vers la Bretagne et la Normandie, de la région parisienne au Hauts-de-France, jusque vers la région Grand Est, mais aussi en vous rapprochant des régions méditerranéennes.
Merci Jean-Pierre Hameau de Météo France.